Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire. Olivier Virvorca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire, vous enseignez à l'École nationale supérieure de Cachan. Vous êtes docteur, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la résistance, sur l'occupation et sur la Seconde Guerre mondiale. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée, un autre cours d'histoire sur les mythes et tout spécialement les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, autre thème pour ce cours d'histoire, je pense qu'il va passionner aussi les professeurs qui, je pense, doivent emmener leurs élèves dans les différents lieux et non pas les lieux de mémoire, nous allons y revenir, mais les lieux de l'histoire de France. Les lieux de l'histoire de France, c'est le titre du livre que vous avez dirigé avec Michel Vinocq aux éditions Perrin. Alors, ma première question est une question assez simple. Comment travailler sur les lieux d'histoire de France qui sont multiples, qui sont où se porter et comment se porter tel ou tel choix?
Alors en fait, si vous voulez, nous avons réfléchi avec Michel Vinocq pour essayer de raconter l'histoire de France un peu autrement, de manière sérieuse, avec des bons spécialistes, mais également de manière agréable, brève, lisible et accessible. Et donc les lieux se prêtent magnifiquement à cet exercice, et le principe au fond, c'est d'avoir choisi des lieux qui incarnent un moment de l'histoire. Bien entendu, la guerre de 14-18 ne se résume pas à Verdun. Bien entendu, Louis XIV ne se résume pas à Versailles. Mais si au jeu des portraits chinois, on vous demandait, au fond, Louis XIV, c'est quoi le lieu qui, vous répondriez, Versailles. On répondrait Chambord pour François Ier, on répondrait pour le monde ouvrier, Renault. Donc ça a été véritablement cela notre idée, avec la volonté de partir de la préhistoire, Lascaux, pour déboucher sur le très contemporain, le palais du cinéma, le palais des congrès, donc à Cannes. Notre idée, ce n'était pas de vouloir faire les lieux de mémoire, ce qu'a fait magnifiquement Pierre Nora. Le principe de Pierre Nora, c'était au fond de réfléchir sur la manière dont des lieux ou des objets, ou voire des éléments immatériels, la Marseillaise par exemple, avait influencé la mémoire nationale. Nous non, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment les lieux fonctionnent. Comment les lieux fonctionnent à l'époque, qu'est-ce qu'ils nous disent, mais également après. Car il est évident qu'un lieu comme le Louvre, palais royal au départ, est devenu ensuite musée, est devenu ensuite ministère des Finances. Donc les lieux évoluent. Et nous avons voulu également montrer cette évolution. Donc voilà, c'est ça le principe. L'idée qu'on va raconter un moment d'histoire de France parce qu'il peut s'incarner dans un lieu, et dans un lieu, j'insiste sur ce point, qui est a priori visible. Vous avez de mémoire 34 lieux, la quasi-totalité sont visibles, donc le lecteur pourra juger sur pièce.
Alors je vais vous poser une question piège, Olivier Virvorca. Vous avez choisi des mythes.
Oui.
Les fameux mythes dont nous parlions préalablement dans une autre émission.
Oui, alors certains lieux...
Parce que la représentation, vous parliez de Versailles. Bon, ben, Louis XIV, c'est le mythe de Versailles. Les Douaumont, c'est un des grands mythes de la Première Guerre.
C'est aussi une réalité quand même, Douaumont.
Alors oui.
Mais il est vrai que, si vous voulez, ce sont... Quand vous parlez de mythes, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que nous avons des lieux qui sont plus grands que les lieux. Que immédiatement, quand on pense à Verdun, quand on pense à Versailles, quand on pense à Renault-Billancourt, il y a autre chose que ces lieux. Et vous avez raison. Mais d'autres lieux ne sont pas mythiques. Nous avons choisi certains lieux qui ne sont pas mythiques. Je pense par exemple au pont du Gard, je ne pense pas qu'il y ait une mythologie autour du pont du Gard, et pourtant c'est un lieu tout à fait intéressant.
Le mythe, on a l'impression qu'on on est attaché à ces lieux finalement. S'ils n'existaient pas, on voudrait les inventer. Alors que, je vous cite dans l'introduction, si la France peut se définir par des valeurs, s'illustrer par de hauts faits, elle s'incarne également dans des lieux qui, dans la suite des temps, forment autant de jalons significatifs. On s'identifie davantage en tant que Français à un lieu et plus facilement qu'à une valeur.
Là, vous posez une grande question, parce qu'on pourrait, à la limite, opposer Ernest Renan, qui affirme que voilà, la France se définit par ses principes, et Barrès, qui affirme que la résistance se définit par son sol. Et j'ai envie de dire, mais ce n'est pas du tout pour jouer les modérés, mais j'ai envie de dire que c'est les deux. Bien entendu, lorsqu'un Français, et d'ailleurs, c'est très lourd quand même à porter, c'est très très lourd, quand on pense qu'on peut voir encore aujourd'hui l'endroit où Henri IV a été assassiné. Donc on a quand même quelque chose de très lourd dans nos consciences européennes avec ce passé qui pèse. Mais il est clair que la France, quand vous demandez à un Français ce qu'il incarne, ce sont bien sûr des idées, ce sont bien sûr des principes, c'est aussi un esprit, une langue, mais ce sont aussi des lieux. Circonscrits, le Panthéon, mais aussi des villes. Donc, par exemple, Paris est en France, et Paris, c'est la France, même si la France n'est pas que Paris. Quand Paris a été libéré, le tocsin a retenti dans bien des capitales internationales. Bon, donc c'est dire aussi que la France, elle s'incarne de cette manière, à la fois charnelle et visuelle, dans un certain nombre de lieux. Alors, attention, là, je ne veux pas du tout dire que nous avons fait une histoire cocorico. Parce que vous avez des lieux de gloire, Versailles, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe qui est un lieu de gloire au XIXe siècle, mais aussi au XXe. La première grande manifestation de novembre 1940 contre l'occupant, elle est bien à l'Arc de Triomphe. Là, le revival gaulliste, il est bien sur les Champs-Élysées en mai 1968, donc c'est un lieu, si vous voulez, qui a continué à parler. Donc on a ces moments de gloire, et puis on a des moments plus tristes. La ligne Maginot, je ne dirais pas que c'est la quintessence de la France, et pourtant oui, c'est un moment de l'histoire de France. Drancy également. Courrières, la catastrophe de Courrières, des mines de Courrières, c'est aussi un moment de l'histoire de France, et ce n'est pas un moment glorieux. Et le passé français, il est ainsi. C'est une très grande histoire, une très vieille histoire, mais où alternent les ombres et les lumières.
J'ai fait une émission avec Emmanuel de Varesquiel sur son dernier livre, Juger la reine, et ce qui m'a surpris dans sa démarche, c'était, et il le montre très bien avec l'émotion, avec une vraie émotion qui est peut-être étonnante de la part d'un historien, mais il a voulu, dans le procès de la reine, revivre en allant sur le lieu. Étudier l'histoire, c'est inévitablement connaître ces monuments et ces lieux ?
Non, parce que vous avez des historiens qui peuvent procéder de manière différente, mais il est évident, et ça Arlette Farge en a parlé, que quand vous touchez une archive, vous avez quelque chose qui se passe, je ne peux pas vous dire quoi, qui est en tous les cas de l'ordre de l'émotion, qui est de l'ordre de l'excitation, qui fait que entre lire un livre où vous avez le discours d'Eisenhower, par exemple, qui est le discours sur le débarquement à rater. Et quand vous avez l'original entre les mains, le discours qu'il aurait prononcé si le débarquement avait loupé, eh bien vous avez une très très grande émotion, et cette émotion était celle d'Eisenhower, et dans une certaine mesure, elle transparaît dans l'archive. Donc oui, les lieux nous parlent. D'ailleurs, entre nous soit dit, ces lieux sont très visités. Quand vous prenez Lascaux, que nous évoquons, quand vous regardez Carnac, ce sont des dizaines de milliers de gens. Quand vous réfléchissez 30 secondes, je ne parle pas de Lascaux, mais quand vous regardez Carnac, c'est quand même un peu... Donc cela veut dire aussi qu'on y met quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, de la représentation, et que ces lieux nous parlent.
Alors, enfin, les lieux de l'histoire de France, vous avez demandé à plusieurs historiens de se pencher et des très grands historiens. J'étais vraiment surpris de voir cette, si vous me permettez l'expression, cette brochette de grands hommes, de grands chercheurs. Thierry Lenz pour l'Arc de Triomphe, Ranin Lévy, le grand Ranin Lévy sur la place de la Bastille, oui. Pascal Horry pour la Sorbonne, Jeannonet pour la Maison de la Radio, on ne l'a pas évoqué, on l'évoquera tout à l'heure, particulièrement sur le XXe siècle. Votre approche, une approche qui est une approche chronologique. Évidemment, vous commencez par Lascaux et vous terminez par Sarcelles. Donc, approche chronologique, mais il y a malgré tout une approche transversale. On pense notamment au lieu de guerre ou bien au lieu de la chrétienté.
Oui, on a cette approche transversale. Alors, on a l'approche chronologique parce qu'on voulait, si vous voulez, que le lecteur se repère et qu'il ait donc un fil rouge. Et le fil rouge, c'est la chronologie. Mais bien évidemment, il y a aussi des phénomènes d'écho. Alors, vous parlez par exemple des lieux de la chrétienté, et vous évoquiez les auteurs qui ont participé. On a des auteurs qui ont été d'abord formidables, je dois le dire, c'est toujours un pari de lancer un livre collectif. Est-ce que les auteurs vont répondre présent? Oui, ils l'ont fait. Et est-ce que les auteurs vont travailler très sérieusement? Et oui, ils l'ont fait. Et pour ça,
parce qu'il y a des auteurs qui ne travaillent pas sérieusement.
On peut prendre plus ou moins sérieusement un projet collectif. Voilà, ça arrive. Et là, on a vraiment été extrêmement contents de l'enthousiasme que nos co-auteurs ont développé. Mais en même temps, ces auteurs sont rebelles. Parce qu'on parle des lieux de l'histoire de France et vous évoquiez la chrétienté. On a des lieux qui sont chrétiens et qui sont français. Quand vous prenez, par exemple, Reims, c'est effectivement un lieu qui est, pour aller vite, une forme de quintessence française, c'est le lieu où les rois se font sacrer. Mais quand vous prenez l'abbaye de Cluny, notre auteur, qui a été extrêmement insolent, nous dit « c'est pas un lieu français ». Pourquoi vous considérez que Cluny est un lieu français? Cluny, au fond, est un monastère qui va fonder un ordre, l'ordre clunisien, et c'est un ordre européen. Donc, c'est un lieu qui est français parce qu'il est aujourd'hui situé sur le territoire français. Mais dans l'esprit de ses promoteurs, à supposer d'ailleurs qu'ils aient une conscience de la francité, c'est un lieu qui est d'abord et avant tout européen. C'est un lieu, et là c'est pas une reconstruction, c'est un lieu où le roi de France ne vient pas, alors qu'il va aller, par exemple, au Mont-Saint-Michel, alors qu'il va aller, bien entendu, à Reims. Donc on a un lieu qui n'est pas un lieu français, mais qui est un lieu européen. Et ce lieu, en même temps, va évoluer, va devenir une prison, va devenir une école qui existe encore, les arts et métiers, va souffrir pendant la Révolution, mais va renouer avec sa dimension européenne, avec la visite du président Mitterrand qui fera un grand discours européen à Cluny.
Oui.
Et donc là, on a véritablement une chaîne des temps qui est absolument incroyable.
Autre exemple, c'est le Palais des Papes. Le Palais des Papes, Avignon. Avignon n'appartenait pas à la France, appartenait au pape.
Bien entendu. Là, Jacques Chiffolo fait partie également des auteurs rebelles qui n'a cessé d'expliquer que, Avignon n'est pas français, et il a entièrement raison. Vous le soulignez, le comtable naissin n'est pas intégré à la France à l'époque. C'est également un lieu catholique, mais c'est aussi un lieu de pouvoir. Et il insiste beaucoup, Jacques Chiffolo, sur cette dimension de lieu de pouvoir que représente le Palais des Papes. Mais dans le même temps, la France, c'est aussi ses apports. La France, aujourd'hui, vous voyez bien que le Palais des Papes est un lieu très visité et est le lieu très solennel où s'exprime toute la quintessence de la création théâtrale française. Donc ce lieu qui, effectivement, n'était pas français au départ, l'est devenu, et nous dit quelque chose de la manière dont s'est construite la France, par justement ses apports successifs qui lui confèrent une identité qui n'est pas l'identité belge, qui n'est pas l'identité allemande.
Alors on est toujours étonné de voir à Paris ce monument qui s'appelle le Sacré-Cœur, qui fait très 19e siècle, et on ne sait pas d'où il vient, et là, Étienne Fouillou, qui est un des plus grands historiens de l'Église, un des plus grands historiens français de l'Église, nous donne la réponse.
Oui, donc c'est un lieu qui a été un lieu qui correspond au fond à un moment un peu d'expiation Même s'il n'y a pas directement de lien, montre Étienne Fouilloux, avec la défaite de 1870, mais donc d'une forme, au fond, de religiosité qui évolue à l'époque, qui insiste beaucoup plus justement sur le sacrifice, etc., etc., que sur, par exemple, la bonté du culte marial. Et donc, c'est effectivement un moment important dans l'histoire de l'Église catholique. Mais, dans la même veine, ce qui est tout à fait intéressant, c'est Lourdes.
Oui.
Et là, c'est une collègue britannique.
Il y a la grotte de Lascaux et il y a la grotte de Lourdes.
Voilà, et cette grotte de Lourdes, en fait, c'est une grotte, si vous voulez, qui est située, au fond, aux marges de la France. Hein. On est loin de Paris. Et elle montre bien, Ruth Harris, que l'Église est très embarrassée par ces apparitions de la Vierge. D'abord, elles apparaissent, des espèces de bergères, et ensuite, cette grotte était un lieu, au fond, où il y avait des fées. Et donc, on a une forme, au fond, de syncrétisme entre ces croyances très populaires, hein, de fées, de forêts, etc., etc., qui fait que l'Église est bien embarrassée pour reconnaître le caractère miraculeux. Et donc, on va avoir, au fond, au départ, une très grande réticence de l'Église, mais petit à petit, elle va s'en emparer, elle va également exclure tout le caractère local de ce culte, et avec le développement, point sur lequel insiste notre auteur, avec le développement des chemins de fer, Lourdes va devenir véritablement un centre extrêmement important pour la piété catholique. Mais on voit bien qu'ici, cela n'a pas été instantané, et que le clergé a plutôt tenu en suspicion ces apparitions miraculeuses.
Alors, peut-être que ce n'est pas voulu, mais toute la période de la Révolution à la Première Guerre mondiale, on voit que Paris, avec cet État centralisé, même si on va dater la centralisation un peu avant l'absolutisme de Louis XIV, le Paris est très présente. Donc Paris, c'est un lieu de pouvoir. Et vous avez préféré prendre le Palais Bourbon plutôt que l'Élysée.
Oui, parce que, au fond, l'Élysée comme lieu de pouvoir, c'est récent. C'est Charles de Gaulle. C'est avec la Ve République. Donc, véritablement, la politique, elle se fait au Palais Bourbon. Elle se fait et elle se défait au Palais Bourbon. Donc, le Palais Bourbon est tout à fait central pour comprendre l'histoire, bien évidemment, du XIXe siècle, mais également de la IIIe et de la IVe République. Donc là, on est véritablement dans un lieu important. Nous insistons sur Paris, c'est vrai, mais vous l'aurez noté, nous faisons très attention à la province.
Tout à fait.
Parce que la France, c'est Paris, mais ce n'est pas que Paris. Et nous montrons aussi, par exemple, que vous avez d'autres lieux très importants, comme la promenade des Anglais. Et la promenade des Anglais, qui, vous le voyez, là aussi, n'est pas un lieu français au départ, puisque la promenade des Anglais est construite, enfin est pensée, avant le rattachement du comté de Nice à la France, qui s'opère en 1860. Mais ce lieu est devenu français parce que Nice a été rattaché à la France, parce qu'il est devenu aussi, au fond, le symbole d'un certain art de vivre à la française, d'une certaine élégance, et puis il est devenu, avec la tragique actualité, un lieu terriblement français en raison de l'attentat qui a frappé la ville de Nice. Et donc, incontestablement, aujourd'hui, cette promenade des Anglais, on voit bien comment son statut d'art de vivre, peut-être de frivolité, est devenu aussi un lieu de gravité et un lieu tragique.
Alors j'étais surpris de voir qu'il y avait si peu de lieux liés à la guerre. Et on peut avoir, peut-être qu'il s'agit d'un mythe, mais on peut avoir une conception de l'histoire de France comme une succession de guerres. La France s'est faite dans la guerre, au fur et à mesure, elle s'est terminée, en quelque sorte, elle s'est finie avec Vergennes au XVIIIe siècle, sous Louis XVI. Vous avez décidé de ne retenir que quatre lieux liés au monde de la guerre.
Oui, vous avez raison, mais pour une raison assez simple, c'est que, au fond, les lieux de guerre, hein, eh bien, sont moins présents en raison des destructions, etc., etc., que, par exemple, les lieux de pouvoir ou les lieux de culte. Si on veut voir quelque chose de la guerre de 14-18,
faut aller à Douaumont.
Bien sûr, on a Douaumont, et c'est ce que nous avons choisi. Mais si vous voulez voir quelque chose de la guerre de 1940, je parle des opérations militaires, bah là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, bien entendu, nous avons la ligne Maginot, Mais si vous allez à Montcornet où c'est illustré le général de Gaulle, qu'est-ce qu'on voit ? Si vous allez même sur les plages du débarquement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Assez peu de choses. Mmh. Assez peu de choses. Donc la guerre, bien entendu, est présente, mais je ne pense pas que vous ayez le même attachement.
Tout...
Voilà, en raison des destructions, parce que voilà, la guerre passe et l'herbe repousse.
Alors, au XXe siècle, de la Grande Guerre à nos jours, hein, il s'agit de la quatrième grande partie, on voit que nous entrons dans un autre monde qui est à la fois le monde de la consommation, et vous traduisez cette consommation, mais il y a aussi derrière toute une mythologie sociale, les usines Renault. Et à côté de cela, nous entrons aussi dans un monde de culture qui met en avant la culture. Vous évoquiez tout à l'heure le festival de Cannes, mais il y a aussi ce monument qu'est la Maison de la Radio.
Oui, la Maison de la Radio, qui a quand même une architecture assez spectaculaire. Très belle d'ailleurs, et qui est véritablement un monument aux ondes. Et là, c'est Jean-Noël Jeannet, qui connaît bien la maison dont il a été directeur, qui nous en fait l'histoire. Oui, vous avez raison, on entre dans un autre monde. On entre déjà, et les lieux que nous avons choisis le montrent, on entre dans un monde de masse, parce que le Louvre, parce que Lascaux, parce que Chambord, c'est pas les masses. Mais l'ère des foules, l'ère des masses, on le voit bien avec Renault, cette citadelle ouvrière absolument colossale. On le voit bien avec Sarcelles, ces grands ensembles. Donc effectivement, on entre dans une autre période où l'histoire n'est plus simplement l'histoire des puissants, mais qu'elle est aussi l'histoire des foules, l'histoire des masses. Et ces foules et ces masses, eh bien, on peut les incarner, les symboliser, les résumer par un certain nombre de lieux, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc effectivement, on quitte un peu le territoire des grands hommes, hein, pour arriver aussi dans une histoire plus quotidienne, mais une histoire plus quotidienne parce qu'elle a laissé des traces. Il serait très difficile aujourd'hui de voir des traces du monde ouvrier du XVIIIe siècle. Alors, vous allez me dire qu'on aurait pu prendre, voilà, je m'auto-flagelle, Arquessonnant.
Oui.
Mais on voit bien qu'Arquessonnant, justement, n'est pas représentatif, me semble-t-il, en raison de son architecte, le Doubs, en raison du produit, le sel. Voilà, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus exceptionnel que, aurait dit le président Georges Pompidou, la bagnole qui sort des chaînes de Billancourt.
Alors, les masses aussi vont dans les stades. Vous auriez pu choisir le Stade de France pour 98. Vous auriez pu choisir, à ma demande, de façon absolument subjective, le Parc des Princes. Non, vous avez choisi le Stade de Colombes.
Oui, alors, si vous voulez, ce n'est pas moi qui ai choisi. Je n'aurais pas choisi instinctivement le Stade de France, parce que là, on est dans une histoire trop brève. Donc cela parle bien entendu au cœur des Français, mais cela parle au cœur des Français depuis, vous l'avez dit, une vingtaine d'années. J'aurais pris le Parc des Princes, mais au fond, le Parc des Princes, il a moins marqué que Colombes. Colombes a été le grand stade. Alors, on l'a oublié parce que nous appartenons à la génération qui est la nôtre, mais cela a été le grand stade, le lieu aussi où vous avez eu des épreuves olympiques pour les Jeux Olympiques de 1924. Donc, toute une partie de l'histoire sportive française, donc de l'histoire de France, s'est écrite à Colombes, beaucoup plus qu'au Parc des Princes.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Vierborca, pour avoir évoqué ces lieux, donc les lieux de l'histoire de France, un ouvrage que vous avez dirigé avec Michel Vinocq, paru aux éditions Perrin, et je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de Storia Voce.